Leonardo DiCaprio qu'on voit, qui dessine...
Ah bon ?
Qui dessine Rose.
Oui, c'est logique, ça doit être le peintre.
Mais alors, c'est les mains de qui ? Oui, c'est tout à fait, c'est les mains de la personne qui l'a vraiment dessiné. Mais c'est du coup,
ça.
C'est qui cette personne ?
C'est des mains... Ah oui, parce que c'est vrai que c'est, on en parle peu, mais il faut bien embaucher des dessinateurs et des peintres pour pouvoir faire les dessins. C'est dans Nola Darling, la série de Spike Lee, que j'ai adoré d'ailleurs, l'artiste. C'est qui ? Alors, j'ai envie de te dire le peintre qu'ils ont embauché en extra pour faire la doublure, mais je pense qu'il y a un petit twist, à mon avis.
Il y a un petit twist.
Ouais, en te connaissant, il y a un petit twist. Donc, je me demande si c'est un truc du style. Soit c'est genre le réal qui se trouve avoir des talents de dessinateur que personne n'est au courant. Soit c'est un délire de genre un peintre qui est devenu connu après ou qui, tu vois ce que je veux dire? Genre comme si tu disais j'ai embauché en figuration Picasso.
Alors, t'as raison, c'est la première réponse que tu as dit, c'est les mains de James Cameron, donc le réalisateur. Okay. Et c'est lui qui a dessiné ses dessins. C'est tout à fait lui l'auteur. Et du coup, c'est ses mains qu'on voit quand il y a le gros plan, là où on voit le dessin. C'est James.
C'est James who
qui a plein de talents.
Incroyable.
Très talentueux.
C'est très James bien Cameron. De vraiment ceci. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de devoir. Payer quelqu'un.
Au prix qu'a coûté le film Titanic, en plus de ça, quand il a dit moi je peux vous faire une ristourne, c'est moi qui fais les dessins, je pense qu'ils étaient contents, éventuellement.
Mais c'est lui qui a vraiment fait les dessins.
Ouais, c'est lui qui a vraiment fait les dessins.
Ah ouais, il se donne en dessin.
Ouais,
je dirais, il aurait pu être en mode rien à foutre du cinéma, moi je vais faire de l'illustration et tout. Pas la classe. Ouais. Merci, James Woo.
À la place, on a eu Titanic.
Ouais, à la place, on a eu Titanic. Donc, on reste sur Titanic. C'est, comment ça s'appelle tu vois qui c'est Julien Josselin de Suri 4 qui a fait une blague tellement débile à ses copains sur Titanic. Genre, en gros, il a changé. Je sais pas si tu te souviens, mais genre dans la dernière scène de Titanic, c'est genre la caméra qui voit la vieille qui s'endort et on voit toutes ses photos de sa vie qu'elle a vécue après Jack, quoi. Et en fait, il a changé juste ces photos-là et il a convoqué tous ses copains pour faire une vraie séance de cinéma pour voir Titanic dans un cinéma. Okay. Et genre, donc t'as tout le film et tout le monde est en mode « Oh mon Dieu !» et tout, elle perd Jack, c'est horrible et tout. Et après, tu vois sa vie qu'elle a vécue et elle est que avec des nazis. Genre, toute sa vie, c'est traîner avec des officiers SS, etc. Et tout, genre...
En fait, il a fait un lien avec son film, avec le Leaser. Kate Winslet joue une nazie, en fait, voilà.
C'est clair. Et du coup, tout le monde est dégoûté à la fin en disant « Non, elle a survécu et tout, alors que c'était vraiment pas une bonne personne, machin. Enfin, »
Mais j'ai appris très récemment qu'il y a eu une deuxième fin, une fin alternative qui a été filmée de Titanic.
Ah bon ?
Ouais, je sais pas si t'as déjà
vu. Non, jamais entendu.
Et ben, c'est très similaire à la fin qu'on connaît, où elle va sur le bateau là, d'exploration de l'épave du Titanic et elle jette son bijou. Mais il y a une fin alternative où il y a toute l'équipe qui l'interview là avec l'équipe qui descend voir le Titanic,
oui,
etc.
Tout à fait.
Qui l'intercepte en fait au moment où elle va pour jeter son bijou. Et donc il y a une petite scène de dialogue où ils essayent de la persuader de pas jeter le cœur de l'océan dans l'océan. Et du coup, elle le fait quand même. Voilà. Donc la finalité est la même. Elle jette le bijou. Mais il y a cette scène qui n'est pas vraiment utile. Donc je comprends qu'ils n'aient pas conservé ça. Parce que...
C'est cool d'ailleurs d'avoir des gens qui disent « Je comprends qu'ils n'aient pas conservé cette scène coupée. » Parce qu'en général, les gens râlent beaucoup des scènes coupées. Mais il y a des raisons. OK, les gars ?
Ouais, il y a des raisons. Il y a des raisons. OK, un autre vrai ou faux.
Uh-huh.
Au lieu de faire appel à des effets spéciaux,
ouais.
Tim Burton, dans Charlie et la chocolaterie,
OK.
Il a fait dresser 40 écureuils à casser des noisettes.
Mais non.
Vrai ou faux ?
C'est faux. C'est faux. Je suis désolée, c'est faux. Je... Pour moi, c'est faux parce que genre, je me souviens de voir certaines images d'écureuils qui font des mouvements où je suis en mode, ça c'est très clairement fait en image de synthèse. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Il se peut que l'image de synthèse soit faite quand l'écureuil rentre en... comment ça s'appelle, en interaction avec l'humain, mais que tous les écureuils figurants qui sont en train de casser des noix, ça j'y crois qu'on puisse dresser le truc. Mais je dirais quand même VFX, parce que c'est chaud.
Eh ben écoute, c'était vrai.
Mais non.
Il y a 40 écureuils qui ont été dressés à casser des noisettes, enfin dressés.
Peu cher. Mais attends, ça vit combien de temps un écureuil? Parce que ça veut dire que pendant des années après, les écureuils, ils ont passé leur vie à casser des noix sans savoir pourquoi, genre...
Ouais, et qui de leur salaire ont-ils été payés pour toutes ces noix cassées comme ça?
Ça prend combien de temps de dresser un écureuil à casser des noix? Mais je pense dans que ça des doit conditions être plus court de tournage aussi
que les simuler en images de synthèse.
Je suis pas sûre, hein, parce que... En fait, genre, je sais pas, déjà, il faut des... On parle quand même d'un animal... qui oublie 80% de ses cachettes. C'est-à-dire que lui, sa survie repose sur le fait de cacher des noix et du garde-manger un peu partout pour les retrouver plus tard. Mais il oublie 80% des endroits où il les cache.
Ouais.
C'est ça dont on parle. Hein. C'est pas un chien ou un couchon, le truc, tu vois. Et en plus de ça, genre, y a un truc où ça prend des semaines. Et en plus, il faut que les écureuils soient pas paniqués par les techniciens, essaient pas de monter sur la tête des humains, n'aient pas peur d'eux, etc. Donc je suis un peu en mode une scène comme ça en VFX, à mon avis tu prends bien de un mois ou deux à le faire avec un chef monteur truquiste, tu vois. Je pense que c'est vraiment, je pense pas que ça doit coûter, en fait je pense pas que ça doit coûter moins cher que du VFX, mais à mon avis c'est évidemment que c'est plus la classe d'avoir des vrais. D'ailleurs hier soir j'ai vu Wonka.
Ah alors?
Et ben j'étais fort déçue.
Ah bon, moi j'ai entendu des bonnes critiques.
Alors oui, question comédie musicale, je trouve qu'en termes de musique, c'est complètement cohérent avec, comment dire, l'univers des comédies musicales. Il y a une bonne, en tout cas une composition qui est correcte, je trouve, sur ce film. Par contre, en fait voilà, ils ont enlevé une grande partie de la magie. C'est-à-dire que les deux critiques que j'ai à faire, c'est que premièrement, il n'y a pas de magie dans le film. Il y a Timothée Chalamet qui balance des paillettes. Et tout d'un coup, ouais, le chocolat devient magique. Et du coup, t'es un peu en mode, bon, ça c'était bien quand on était en 1940 avec Blanche-Neige et que, tu sais, Cendrillon, ouais, on pouvait que montrer la magie par des paillettes, ok, tu vois. Mais ils ont enlevé justement tout ce truc qu'il y avait dans les deux Charlie et la chocolaterie, où, beaucoup dont on parle, c'est-à-dire des écureuils, des salles avec des écureuils, ouais, qui font du travail, tout un délire aussi sur les illusions d'optique. Tu vois, tout un truc comme ça de magie, magicien, qu'ils ont abandonné. Et puis, en plus, Timothée Chalamet, je le trouve pas du tout à la hauteur des autres acteurs, quoi. C'est-à-dire qu'il est avec des acteurs qui ont 50, 60 ans, qui sont tous des acteurs britanniques, pour la plupart exceptionnels. Il y a le mec qui fait Mr. Bean, il y a Olivia Compton, enfin, que des gens qui savent très bien doser la caricature. Et en fait, à côté, ben, ça montre à quel point Timothée Chalamet, il est trop jeune en tant qu'acteur pour savoir caricaturer comme un Johnny Depp ou un Jim Carrey pourrait le faire, si tu veux.
Après, c'est censé être la jeunesse de Willy Wonka, si j'ai bien suivi.
Complètement. C'est pas un problème qu'il est trop jeune en termes d'âge, mais il est trop jeune en termes de carrière d'acteur.
Ouais.
C'est-à-dire que là, en fait, on a besoin de quelqu'un qui sait caricaturer son corps, comme Jim Carrey, le gars de Mr. Bean, Steve Carell savent le faire, en fait. Tu vois, et eux, ils savent doser, c'est leur métier. Et là, en fait, je comprends qu'on l'ait casté, lui, en termes de sa tête, parce qu'il a une tête qu'on a envie d'étirer et il essaye de faire ce qu'il peut, mais en fait il est Timothée Chalamet, c'est un mec de la génération de nos petits frères qui sait qu'il est beau, et en fait je pense que c'est un rôle qui doit être joué par quelqu'un qui sait pas qu'il est beau, ou en tout cas qui, ouais, donne l'impression qui tu vois, Johnny Depp par exemple, qui est quand même un des sex symboles de l'actorat de notre génération, quand il joue Charlie et la chocolaterie, on a l'impression qu'il est pas au courant qu'il est beau et qu'il est timide et tout. Tu vois, Timothée Chalamet, à chaque instant, il sait que le but, c'est de faire des photos Instagram à la promo du film derrière, quoi.
Et Timothée, si tu nous écoutes ce soir, enfin, aujourd'hui plutôt, il faut arrêter Instagram.
Non, mais... voilà. Après, bon, il était, comment dire, il était quand même très bien fabriqué. L'histoire est chouette, vraiment. Mais pareil, Hugh Grant aussi dans les Oompa Loompa, j'ai pas compris ce choix-là.
Oui, c'est vrai que ça, j'ai vu au cast un peu étrange.
C'est un peu bizarre. Après, je comprends, parce qu'en vrai, c'est vrai que Charlie la chocolaterie sur les Oompa Loompa, c'est hyper, comment dire, c'est hyper bercé de cette mentalité coloniale, orientaliste, où en fait, c'est aussi un conte qui arrive après la colonie de l'Afrique et de l'Asie. Et notamment plutôt de l'Asie d'ailleurs, plutôt pour le côté anglophone. Et que du coup, il y a un délire de « Ah, on est allé faire les mercenaires et les conquérants dans le Nouveau Monde. » Et on revient en disant « Ah, tu te rends compte, il y a des gens qui sont tout petits, qui s'habillent en pagne et qui font du fèvre de cacao. » En fait, ils sont en train de parler des pygmées du Congo, quoi, ouais, tu, ouais, vois. Genre... Donc en fait, je pense que les réalisateurs aujourd'hui se sont dit « C'est un peu compliqué, surtout qu'en plus ça s'appelle Oompa Loompa. » d'aller mettre des acteurs racisés sur ce rôle-là, tu vois. On commence à avoir quand même l'acteur de Tyrion Lannister là, qui commence à dire « Moi, je veux plus accepter des rôles de nains. » Oui. Enfin, des rôles où on est magique, tu le verras jamais dans Le Seigneur des Anneaux.
Des rôles
où
il est réduit à, entre guillemets, sa condition de nain, quoi.
Oui,
pas un vrai
et puis
personnage,
ce côté, sa condition de nain magique. Oui. Et pas d'être humain petit.
Oui.
Tu vois. Et du coup, il y a un truc un peu comme ça où je comprends que ce soit que pour éviter de blesser du public, hein, de dire on va mettre un Britannique et faire le cliché du petit Britannique un peu trop guindé, etc. Mais du coup, c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange, je crois. Mmh. Mais bon, après, bon, voilà, allez voir quand même Wonka, c'est quand même des films qui ont été bien fabriqués, quoi. Voilà, j'ai parlé beaucoup. T'as encore des questions à me poser ?
Ouais, ouais, j'ai encore des questions. Alors, l'année dernière, il y a eu une histoire de vol vieille de presque 20 ans qui a été élucidée.
Bravo. Enfin,
je vais te citer trois objets iconiques du cinéma.
Ok.
Et tu devras trouver lequel de ces objets avait été subtilisé.
Ok, ok, ok.
Alors, un des crânes de cristal d'Indiana Jones. Une des paires de souliers de Dorothée dans Le Magicien d'Oz.
Waouh.
Ou le fameux collier de Kate Winslet dans Titanic.
Ah, je dirais l'Indiana Jones. Ça sent bien l'Indiana Jones. En plus, tu dis il y a 20 ans. Il y a 20 ans, techniquement, c'est plutôt le Indiana Jones et Titanic qui sortent. Le troisième, c'était quoi déjà ?
Ah oui, c'est les souliers de Dorothée dans Le Magicien d'Oz. C'est bien plus ancien.
C'est plus ancien. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. On est complètement même 50-60, je pense. Il faudrait que, si tu dis que le vol date d'il y a 20 ans, ça veut dire qu'en fait, il aurait été volé dans un musée.
Oui.
Et pas un technicien qui prend sur le tournage. Qui quand même, faut comprendre aussi que la prod achète souvent des accessoires et des costumes, et en fait, après, elle les jette. Et les acteurs, souvent, doivent galérer avec les producteurs pour demander, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de récupérer le bar iconique, par exemple, l'acteur de Barney Stinson dans How I Met Your Mother a gardé la banquette rouge iconique de How I Met. Bon. Mmh. Mais moi, j'aurais tendance à dire, d'instinct, je pense Indiana Jones, crâne de cristal d'Indiana Jones.
Alors non, ce sont les souliers de Dorothée.
Mais non.
Le Magicien d'Oz, j'ai la petite anecdote. Donc, en fait, alors, c'est commun dans le cinéma, hein, bien sûr, qu'il y ait plusieurs objets, plusieurs exemplaires, je veux dire, d'un objet iconique. Hein. Ouais. Donc, il reste plus que 4 paires maintenant de cette paire de chaussures. Il y en avait beaucoup plus de base qui ont été portées donc, par l'actrice Judy Garland, qui interprète Dorothée dans le film. Et en fait, en 2005, un homme qui s'appelle Terry John Martin, un Américain, c'est un ancien braqueur. Et en fait, il dérobe une des paires qui est exposée dans un musée. En fait, il y a un ami de la mafia qui lui a dit qu'il valait très cher parce que c'était des vraies pierres précieuses qui sertissent la chaussure. Donc,
ça, j'y crois pas une seule seconde.
Donc, il vole les chaussures. Donc, il pense donc que les souliers, il y a des vraies pierres précieuses. Il va voir un receleur pour les revendre. Et en fait, le receleur lui dit que non, c'est des fausses pierres précieuses. Et en fait, il n'est pas du tout au courant de ce qu'il vient de voler. Lui, il n'a jamais vu le film.
Ah,
il
ne
se doute pas
sérieux
du tout de la valeur que peuvent avoir ces chaussures, même si ce n'est pas
des pierres précieuses. Oui, parce qu'il y a quand même une grande actrice qui les a portées.
Ah, c'est un film iconique, en plus, du cinéma. Je crois que c'est un des premiers films en couleur. Enfin, c'est vraiment un film très important à la culture américaine, en tout cas. Et en fait, du coup, après, il se débarrasse des chaussures. Il est dégoûté, il se débarrasse des chaussures. Il pense que ça vaut rien. Et bon, après, il y a une longue enquête. Je vous passe les détails. Il les passe à quelqu'un et c'est lui qui s'est fait prendre. On a réussi à remonter jusqu'au voleur. Donc, l'année dernière, c'était un vieil homme. Maintenant, il a 76 ans, je crois. Et en fait, voilà, il n'avait jamais vu le film. Il ne savait pas du tout. Et les chaussures, pour anecdote, elles sont estimées à 3,5 millions de dollars.
Mais évidemment. Mais en plus, c'est complètement con de croire qu'il y avait des vrais. En fait, non, c'est pas complètement con de croire que c'était des vraies pierres. Dans le sens où, effectivement, lui, il voit des chaussures avec des pierres.
Ouais.
Il ne sait pas que ça vient d'un cinéma. Du coup, d'un film, du coup, effectivement, il n'a pas la réflexion de se dire jamais un film va payer un truc 4000 euros plus cher que quelque chose qui fait exactement le même visuel, mais pas cher, quoi.
Bien sûr.
Et alors, comment est-ce que. Alors, du coup, ces chaussures-là, comment on les a retrouvées ?
Ben, en fait, après, il s'en est débarrassé. Il a filé un ami à lui. Et puis lui, après, il a essayé de les revendre. Et en fait, le FBI, au bout de quasiment 20 ans, parce que voilà, ça a été volé en 2005, a réussi à remonter jusqu'à lui. Et alors, il a été condamné, mais comme c'est un vieux monsieur qui est malade, en plus, il est venu en chaise roulante au procès avec son oxygène et tout. Voilà, il a été condamné, mais il ne fera pas de prison pour ça. Et puis surtout, on a retrouvé les chaussures.
En même temps, c'est vrai que s'il les vole en 2005, c'est pas étonnant qu'il sache pas qu'il ait oublié le magicien d'Oz, quoi. Ça date quand même, ça fait 40 ans.
Ouais, et... ça date, mais c'est rigolo de voler quelque chose d'autant de valeur. Parce qu'en plus, pour oui. la petite anecdote, l'ami qui lui dit ça, donc c'est un ami de la mafia, hein, donc c'était écrit ça dans l'article que j'ai lu. Et en fait, lui dit que les chaussures sont assurées à hauteur de 1 million de dollars et il suppose que c'est parce qu'il y a des pierres précieuses en fait sur les chaussures.
Ah, ce qui donc, était vrai, mais qui n'était pas du tout vis-à-vis du.
Surtout, c'était pas 1 million en fait, c'était 3,5 millions et ça avait rien à voir avec le fait que c'était des pierres précieuses, à voir avec le fait que c'était les chaussures de Dorothée dans le magicien d'Oz. Wow. Et c'est rigolo de voler quelque chose d'aussi iconique et de même pas s'en rendre compte.
Ah là là. Marrant. Mais il y a des trucs un peu comme ça dans le cinéma. Moi, dans l'histoire du ciné, j'avais entendu parler d'un. En fait, il y a eu un moment, mais à l'ancienne, où il y avait eu une grande phase du cinéma où on faisait des grands péplums. Et du coup, en fait, on met des trucs.
Baignure et compagnie.
Ouais, et genre, mais je crois que c'est pour Baignure d'ailleurs, je suis pas sûre, mais des trucs dantesques où, en fait, si on avait besoin d'une foule de 10 millions, de 10 000 personnes, on allait embaucher 10 000 figurants. Ouais. Parce qu'on n'avait pas encore les mesures de à quel point un film on peut se permettre de dépenser de l'argent comparé à ce que c'est rentable. Aujourd'hui, jamais personne ne voudrait faire un film avec 1 million de figurants. Enfin, genre, c'est trop quoi. Et en fait, ils ont fait un énorme truc comme ça. Ils ont dépensé pour des choses comme ça. Et en fait, à la fin du film, ils ont réussi à tourner tout. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'argent pour nettoyer derrière eux. Et du coup, ils sont les espèces de grands édifices qui étaient censés reprendre des palais antiques, égyptiens et romains. Et ben, en fait, ils les ont enfouis dans le désert. Et le réalisateur a dit... J'appréhende un peu parce que j'ai peur qu'il y ait des archéologues du futur qui grattent à cet endroit-là et qui comprennent pas ou que ça brouille les pistes et qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils retrouvent des architectures en plus en carton mâché
de mauvaise qualité.
Et du coup, je pense que
il restera certainement rien au moment où les archéologues si c'est fait en placo ou quoi, ça va pas résister des millions d'années. Hein,
on peut le rassurer.
Je pense que ça va aller.
Mais bon, j'aime bien l'idée qu'il passe toute sa vie à se dire merde. Ouais. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va retrouver mes déchets.
J'ai une dernière question pour toi.
Je t'écoute.
Et comme c'était pour toi, elle est sur Harry Potter.
Merci.
Donc, vrai ou faux, toujours, dans le troisième volet d'Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, les scènes du Magicobus, donc le bus magique où monte Harry au tout début du film, qui roule à vive allure dans les rues de Londres, est-ce qu'elles ont été tournées en décor naturel ? Sans CGI.
Ah bah pas tout, parce qu'il y a un moment donné où il se retrouvait tiré entre deux bus de moldu.
Ouais, les scènes où le bus roule à vive allure à 160 km/h.
J'y crois de ouf, parce qu'en fait il y a une technique dans le cinéma qui est très 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 pas utile mais efficace, voilà. C'est qu'en fait quand tu fais des cascades en voiture, tu tournes tout à 10-20 km/h. Et ensuite, tu accélères. Et du coup, tu as l'impression qu'il y a des dérapages à 90 km/h, alors que les cascadeurs ont fait le dérapage, mais à 20 km/h. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement, il y ait une partie qui n'ait pas besoin. Surtout que Harry Potter est connu, surtout les trois premiers, pour avoir vraiment essayé au max de ne pas mettre de CGI. Donc, par exemple, ils avaient les bougies de la salle commune.
Ouais.
Des vraies bougies attachées. Donc il y avait la cire et des bougies qui tombaient sur les gosses. On est passé à côté d'un gros accident hardcore, mais tout le monde va bien. Quoi. Mais... Donc oui, moi je dis oui, c'est vrai, il n'y a pas de CGI.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Et c'est ce que tu as dit. Hein. Ça a été tourné en décor naturel, mais au ralenti, pour donner l'illusion que le véhicule se déplace à 160 km/h. Il roulait en fait à 50, les voitures autour à 12, et les passants qu'on aperçoit, c'est des cascadeurs qui sont entraînés à marcher très doucement.
En fait, c'est ça le plus
pour
difficile.
Pour que ça marche bien, l'effet. Ouais.
C'est d'arriver à marcher en slow-mo.
Oui, c'est ça. C'est pas les voitures, les véhicules, c'est les passants qui sont dehors qui doivent simuler.
Mais il y a des effets comme ça que ça fait un être... Et je l'ai vu d'ailleurs, là, il y a deux jours, il y a mon mari qui a regardé The Beekeeper. C'est genre le porno des films d'action. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que tu vois le truc dans les films porno où t'as le mec qui arrive et qui dit « Bonjour, je viens réparer la canalisation, c'est le plan B. » Et ben, c'est un peu ça, version, au lieu d'être porno, d'un film d'action.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est « Salut, je suis un apiculteur. Il y a une grosse entreprise qui a tué mes abeilles. Du coup, je vais aller leur casser la bouche. » Tu vois, et genre le mec, il a la puissance d'une armée de force spéciale du Mossad, tu vois.
Ouais.
Mais c'est un apiculteur.
agriculteurs, quoi.
C'est la transhumance.
Non, mais oui. C'est complètement débile et tout. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que oui, dans le film, ils ont utilisé la même technique, mais pour les scènes de combat. Du coup, ça fait un effet très étrange. Mais pas forcément mauvais d'ailleurs, mais ça oui. fait un effet chorégraphique hyper bizarre, hyper accéléré. Et il y avait d'autres films aussi, mais je sais plus lequel, qui alors... s'est amusé à tourner une scène à l'envers. C'est-à-dire ah, oui, que l'acteur marchait à reculons pour que quand il le remette à l'endroit, ça, il puisse faire toutes ses actions à l'endroit, mais qu'il y a quand même un effet bizarre,
oui.
pour le, un effet magique pour le spectateur. Quoi.
J'avais vu qu'il y a un effet spécial aussi dans Twilight, dans le premier film, où les vampires ils se déplacent bien plus rapidement que les humains. Il y a notamment une scène où il y a les méchants vampires là, qui ressemblent aux Black Eyed Peas qui viennent attaquer à un moment les gentils vampires qui mangent des animaux. Et en fait, ils marchent, mais ils marchent vite et en même temps, doucement, l'effet est un peu étrange. Et en fait, c'est un tapis roulant qui est utilisé. Et en fait, ils les font courir sur des tapis roulants pour donner cet effet de vitesse accélérée sans utiliser trop de CGI. Et ça marche très bien, franchement, ça marche très bien.
Mais des fois, ça marche mieux. Hein. Moi, j'avais vu, la dernière fois, on était retombé sur, comment ça s'appelle, Underworld, avec les vampires, là.
Oui.
C'est ça que s'appelle Underworld, hein, avec les vampires et les loups-garous. Hein, ouais. Tu sais, la bataille ancestrale.
Oui, c'est Blade, non, c'est pas la suite de Blade ou un spin-off de Blade, un truc comme ça.
Aucune idée, j'ai pas la ref. Mais en fait, on avait peur parce que c'est un film qui date des années 2000 et on s'est dit, ouais. Les effets spéciaux ont dû vieillir et tout. Sauf que pas du tout. Parce qu'en fait, c'est une époque où tout le monde a peur d'utiliser des effets spéciaux. Donc quand ils les utilisent correctement.
Oui, avec parcimonie du coup.
Exactement. J'imagine. Et du coup, genre, je me suis dit, genre un an avant, j'avais vu The Flash, où genre, ils peuvent pas s'empêcher que pour montrer la vitesse, de te mettre des traînées de lumière qui traînent ouais. comme ça, de paillettes derrière ses fesses. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y a un personnage principal qui a, dans Underworld qui a aussi un pouvoir de vitesse par le fait qu'il soit vampire. Sauf que là, en fait, ils montrent un plan avec un premier personnage au premier plan et le vampire derrière. Et ensuite, ils montrent ce que le premier personnage regarde, donc de l'autre côté de la pièce. Et là, en fait, le vampire est déjà présent dans le plan. Du coup, en fait, on a compris qu'il s'est déplacé très, très vite. C'est hyper impressionnant parce qu'il s'est déplacé en une demi-seconde. Mais par oui. contre, tu as zéro VFX, quoi. Toute l'émotion, elle est dans le montage, quoi. Donc ouais, il y a des trucs assez chouettes sur la non-VFX. En général, ça marche pas mal. Hein. Voilà. Est-ce que ça te dit qu'on passe à mon quiz ?
Allez.
Si tu as fini le tien. Donc moi aussi, c'est un vrai ou faux que je te propose sur les titres insolites de la littérature. Puisque,
très bien.
J'aime bien qu'on voit la littérature comme un truc hyper pompeux, alors qu'en fait, je trouve que c'est un des arts où il y a le plus de titres bizarres, incohérents avec l'histoire, etc. Donc je vais te citer des titres et tu vas me dire si c'est oui ou non un vrai titre d'un vrai livre.
Allez, très bien.
Un truc, donc le premier truc, c'est un truc comme un biscuit craquant. Est-ce que tu dirais que c'est un vrai titre ou un faux titre ?
Je dirais un faux titre.
C'est un vrai titre de E. Lockhart, une auteure américaine qui est toujours en vie. L'histoire de ce livre, c'est « Tel est le désespérant constat que Ruby fait de sa vie, sans compter qu'en 10 jours, elle a rompu avec son petit copain, s'est gravement disputée avec sa meilleure amie, a bu sa première bière, Burke, a été prise sur le fait par sa mère, aïe, et a subi une attaque de panique colossale. Mais Ruby a des réserves d'intelligence et de mauvaise foi. Et surtout, persuadée que l'existence est une aventure à haut risque, totalement réjouissante, un vêtement tout doux, mais qui gratte un peu. Oui, mille fois oui, la vie, selon Ruby, c'est finalement un truc comme un biscuit craquant. Ce volume comprend 2 livres précédemment. Donc voilà, je pense que c'est un roman de gare.
Je pense que c'est un roman pour les adolescents.
J'en veux que tu parles. moi, j'ai vu des grandes thématiques d'adultes, ouais. Hyper profondes. Praticien du goudron et des plumes. Est-ce que tu penses que c'est un vrai bouquin ou pas un vrai bouquin ?
Praticien du goudron et des plumes.
Ouais. Praticien du goudron et des plumes.
Ça pourrait, mais je verrais plus ça comme le titre d'un docu ou un truc du
d'un
genre.
D'un documentaire ?
Ouais, je sais pas.
Sur quoi ?
Bah, sur les gens qui mettent du goudron et des plumes sur d'autres. Mais est-ce qu'il y a... Sur les punitions les plus cruelles du monde, sur je sais pas.
Ah, ça me fait penser à une... Bah, genre, en fait, c'est ça ce que je suis en train de me dire, mais quand est-ce que dans l'humanité, il y a goudron et plume en même temps?
Ah, mais je crois que c'était une...
Mélodie du Sud. C'est dans Mélodie du Sud, c'est le seul ref où je vois un truc où il y a eu du goudron et des pumes mélangées.
Je crois que c'était un vrai truc qu'ils faisaient, hein. Ou alors, ah ouais, c'est dans plein de films, on voit ça, je sais pas trop. Hein.
Ah ouais, toi tu l'as su.
Ils faisaient des trucs hardcore avant quand même, en termes de torture, c'est chaud.
Praticien du goudron et des plumes, tu penses que c'est la littérature, toi tu dis plutôt documentaire.
Ouais, j'irais plutôt cinéma, mais...
Ah ouais, ouais. Alors c'est pas cinéma, c'est une moitié de punchline de Booba, ah, en Nantes, qui est sorti, qui est tiré de la musique Boulbi, de l'album West Side, sorti en 2006. C'est donc la punchline complète, c'est « Je vais te casser les pieds, tu vas manger le sol, je suis praticien du goudron et des plumes. »
D'accord.
Voilà.
Ce maître de la poésie.
Ce maître de la poésie. Ensuite, prochain titre ou faux titre, « L'extraordinaire voyage du fakir qui est resté coincé dans une armoire Ikea ».
Ça, c'est un vrai livre.
Ah oui, c'est un vrai livre. Je sens que tu connais ce livre.
Je ne l'ai pas lu, mais je connais ce titre.
Donc, c'est un livre donc, d'un Français, hein, contemporain. Je crois qu'il y a très peu d'artistes décédés là, dans la liste. Qui s'appelle, donc, l'artiste s'appelle Romain Puertolas, pardon. Et donc, ça raconte un voyage low cost dans une armoire Ikea, une aventure humaine incroyable aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye post-kadhafiste. Une histoire d'amour plus pétillante que le Coca-Cola, un éclat de rire à chaque page, mais aussi le reflet d'une terrible réalité. Le combat que mènent chaque jour les clandestins ultimes aventuriers de notre siècle sur le chemin des pays libres.
Je crois qu'on avait beaucoup parlé quand il était sorti, c'est pour ça que le titre me parlait.
Bah, et ça me paraît aussi être un titre fort iconique quand même, l'extraordinaire voyage du fakir qui est resté coincé dans une armoire Ikea. Ensuite on a « Les ours n'ont pas de problème de parking ». Ce qui est très vrai. je tiens à dire que c'est criant de vérité, quoi.
Ça sonne tout à fait comme le titre d'un livre de Kathleen Pancol.
Je connais pas.
Les écureuils de Central Park sont-ils tristes ou je
sais quoi là ça déjà. Me dit, oui, attends.
Les larmes des crocodiles, je sais pas, il y a toujours des
Comment
titres.
Comment tu dis qu'elle s'appelle?
Kathleen Pancol.
Kathleen Pancol, ok, je connais pas. Tac à tac, oui, Catherine Plancol, c'était les yeux jaunes du crocodile. Ouais. Bonne fête, papa. Muchachas. Bon, bref, elle a des titres un peu rigolos, ouais, c'est vrai.
Mais je dirais, redis-moi le titre.
Les ours n'ont pas de problème de parking.
Ouais, je dirais oui.
Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais. C'est un livre du Belge Nicolas Anxion, qui raconte un hold-up entre les fêtes qui tourne mal. Un vieux monsieur abandonne sa boîte à tartines. Je ne sais pas ce que c'est qu'une boîte à tartines. Le prisonnier le plus célèbre du royaume s'évade. Un chien en peluche part à la recherche de sa mère inconnue. Un gardien de but s'est mis hors d'état avant un match de foot. Un téléphone se fait écraser en pleine nuit, sans témoin. Le Père Noël a des états d'âme. Un chat sans moustache erre dans la cuisine. Après avoir lu des histoires pareilles, qui prétendra encore que les ours n'ont pas de problème de parking? Les ours n'ont pas de problème de parking est ici suivi du dortoir fragment. Voilà, bon, ça continue un peu après sur les trucs, j'ai galéré à lire ce résumé. Waouh, c'était compliqué pour moi.
C'était un peu décousu comme résumé, c'est un peu mystérieux.
C'est ça. Ouais. J'étais là en mode, mais c'est moi qui galère à lire ou
c'est le texte.
Des fois, c'était le texte.
C'était le texte.
Ok, titre suivant ou faux titre suivant, les rencontres fortuites du rayon frais.
Oh, ça sonne comme un vrai titre.
C'est complètement moi qui l'ai inventé.
Oh, bien joué. Tiens, bah, t'as le nom de ta future biographie.
Ouais, en même temps, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je rajoute genre du Carrefour de Saint-Brieuc, du quartier Est de Saint-Brieuc.
Ça aurait pu, mais là, du coup, ça sonnait plus film français si tu rajoutais trop de trucs.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est fin, hein. Ouais. C'est difficile, hein, de trouver des vrais trucs. Ok, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau.
Oui, c'est vrai, je l'ai lu.
Ah, je me dis, celui-là, à mon avis, tu vas le connaître de trop.
C'est mon amoureux qui me l'a offert, d'ailleurs.
C'est vrai.
Un livre qu'il aime beaucoup. C'est très rigolo. C'est un psychologue qui a écrit ça.
Et neurologue.
Qui décrit des pathologies tout à fait extraordinaires qui des vrais patients qu'il a rencontrés dans sa pratique de la médecine, et c'est tout à fait incroyable. Des fois c'est triste, des fois c'est drôle.
C'est super. C'est un livre du coup d'Olivier Sachs qui nous a quittés en 2015 et qui effectivement est un ouvrage absolument iconique de la littérature de tous nos copains qui font des études de psychologie, ouais, de psychanalyse.
Mais c'est vraiment,
etc.,
sympa à lire. Moi je suis pas, ouais, du tout, je n'ai aucune connaissance dans le domaine. C'est très bien écrit, vulgarisé, on n'est pas du tout dans du jargon.
Oui, complètement. Moi, j'avais lu justement uniquement l'histoire qui parlait de l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, ouais, qui est une des plus belles histoires, je trouve, puisque c'est l'histoire d'un prof de musique d'université qui, un jour, en fait, commence à avoir des difficultés. Il n'arrive plus à s'habiller, à faire des choses simples de la vie. Et en fait, sa femme se rend compte qu'il est toujours en train de fredonner des chansons quand il met ses chaussures ou quand il fait à manger, par exemple. Et qu'en fait, si on l'interrompt, il est plus capable de savoir ce qu'il est en train de faire. Donc il va essayer, il va pas faire la différence entre un chapeau, entre une chaussure et une chaussette, entre un chapeau et une tête. Et du coup, en fait, la nouvelle, donc ça choque beaucoup ça dans son épouse. Et ce qui est très beau, c'est que la nouvelle se termine sur le neurologue qui dit: écoutez madame, laissez-le chanter votre mari. C'est tout. Il y a rien à faire en fait. Ouais, enfin, ouais. On va pas l'embêter, juste il faut le laisser chanter et ça va. Et il est fonctionnel quand il chante, quoi. Donc ouais, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est un des ouvrages les plus insolites dont j'ai jamais entendu dans ma vie, quoi. Ensuite, on a Pas la peine de passer par Nevers.
Pareil, encore une fois, j'ai envie de dire que ça sonne bien comme un titre de bouquin, ça. Je dirais que oui, c'est un vrai titre.
C'est moi qui l'ai fabriqué.
Ah, t'es très forte, hein.
Et en même temps, ça fait partie de mon métier de trouver des titres pour des films.
C'est vrai.
Donc,
c'est
vrai que c'est pas le même enjeu. Parce qu'en film, par exemple, on a tendance à avoir très très peur des titres longs. Donc, par exemple, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ça ne devrait pas exister, ouais, sur un titre.
Tout le monde, personne dit ce titre, hein. Tout le monde dit Amélie Poulain.
Et c'est, d'ailleurs, je crois que c'est le titre international de ce film, c'est Amélie.
Ouais, ouais,
les Américains disent Amélie, ils disent pas Amélie Poulain. Hein. Et du coup, ouais, c'était rigolo de me dire: ah, là, j'ai le droit de faire des titres plus longs, genre, c'est pas interdit. Ensuite, on a Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, c'est un faux titre.
C'est complètement vrai.
Oh, c'est un vrai titre.
C'est un vrai titre de Elsie Tyler, qui est une d'ailleurs, je ne sais pas, auteur britannique. Le synopsis, c'est, je vais vous le lire tout de suite, hop, on n'est jamais mieux servi que par soi-même lorsque son ex-femme Géraldine disparaît. Ethelred décide de mettre à profit ses talents de détective pour la retrouver. Petit problème, les connaissances en criminalité d'Ethelred, écrivain professionnel, provient de romans policiers tout droit sortis de son imagination qui, depuis un moment, s'est elle aussi volatilisée. Quoi de mieux pour retrouver l'inspiration qu'une enquête grandeur nature? De fausses pistes en révélation renversante, la réalité dépasse de loin la fiction. Voilà. Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage de Elsie Tyler. Ensuite, on a Les gens heureux sont indécents. Les gens heureux sont indécents.
Les gens heureux. J'ai encore envie de dire que c'est un vrai titre, mais. Ouais, vas-y, c'est un vrai titre.
C'est pas un titre de livre, c'est une punchline de Dario Della Noce, où il dit, ou dans il est là, il fait « Les gens heureux sont indécents !» Parce qu'il est célib et qu'il a le somme. Il a écrit un peu, je tiens à dire quand même que ça fait partie des punchlines de Dario auxquelles j'ai participé. Parce que genre, je sais que je fais partie de ces gens, des potes de Dario qui sont en couple et qui sont heureux en amour, et que lui, des fois, il nous regarde et nous dit « Putain, vous faites pitié !» Genre, il dit pas « Vous faites pitié !» il dit vous faites chier à être heureux. Il nous dit tout le temps ça. Vous faites chier à être heureux.
Ouais, bah moi j'aurais cru que son inspiration c'était la chanteuse Anaïs là, Mon cœur, mon amour. Hein. C'est peu le même thème. Hein.
Mon cœur, mon amour.
Ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable.
C'est exactement ça. C'est les gens heureux sont indécents. Ouais. Voilà, version rap quoi, version mec gothique. Bref, la menace végane.
Ah oui, ça je crois que c'est un vrai livre ça.
C'est complètement moi.
Ah mais dis donc, à chaque fois tu m'as. Hein. Très très forte.
Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie. Elle a peur de moi. Elle me regarde dans les yeux. Maintenant, elle essaie de voir dans mon visage.
Là, non, c'est pas un vrai titre.
C'est complètement un vrai titre. C'est un titre de Nick Flynn, aux États-Unis, un auteur américain qui est encore en vie, qui raconte l'histoire d'un SDF qui erre. Voilà. Ensuite, on a « Merci aux ambitieux de s'occuper du monde à ma place ». J'aime beaucoup.
Oui.
Cette phrase, elle est
c'est
magnifique.
C'est très vrai, c'est très
vrai. « Merci aux ambitieux de s'occuper du monde à ma place ».
Non.
C'est vrai, c'est un auteur français qui s'appelle Georges Picard. Retiré dans un village de la Beauce profonde, je sais même pas où c'est la Beauce, c'est là que je vois que je suis restée. Beauce, je savais même pas qu'on avait une région qui s'appelait la Beauce. Mais
salut
pourquoi pas, hein.
À tous les gens de la Beauce.
Salut à tous les Beaussois, Beaussés, Beauchinés, bon, on s'en fout. Le narrateur écrit à un ami qu'il n'a pas revu depuis 15 ans. Dans cette lettre peu conventionnelle, il lui confie ses colères, ses rires et son scepticisme vis-à-vis des valeurs artificielles d'une société où personne n'est jamais content, où chacun veut tout et son contraire, faute de comprendre qu'il n'y ait pas de vie idéale, seulement des arrangements. Ce moraliste sans catéchisme aime Baudelaire, Georges Perrault, Jean-Claude Pirotte, bien ça je me trompe pas, voilà, écrivains qui ont comme lui le sentiment mélancolique de l'existence, son goût pour les idées paradoxales, qu'est-ce que ça veut dire ? Les apories, c'est un mot que je ne connais pas, désolée.
Une figure de style.
Ah oui, tu vois, les apories psychologiques et les traits d'ironie donnent à sa lettre le piquant d'un pamphlet et la nonchalance d'un art discret de vivre. Voilà, pour les gens qui connaissent, qui connaissaient le mot aporie, peut-être que ce livre vous convient. Dernière proposition, Bonnet M a-t-il vraiment de gros seins ?
Ça peut pas être le titre d'un livre, ça. C'est une punchline, un truc du genre.
C'est moi qui... c'est moi qui...
Quand même.
Qui l'ai mis, celle-là. T'es en mode, je doute, enfin.
Ah ouais, là, le doute était total. Hein. T'as bien fait de garder en dernier, parce que c'était clairement dans le doute.
Alors, il est 15h48, en ce vendredi après-midi. Nous avons bientôt fini l'émission. Est-ce qu'on se quitterait pas en discutant un peu, je sais pas, moi... De séries, de films, de livres qu'on a envie que les gens voient, conseillent, etc. Donc, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous présenter avant de se quitter ?
Oui, tout à fait. En plus, pour rester dans le thème un peu insolite, j'aimerais vous parler de la série The OA. Donc, le OA, je ne pense pas que ça a été traduit.
Le OA ?
Le OA en français. C'est une série qui a été diffusée en 2016 sur Netflix. Elle a été créée, écrite et réalisée par un duo de showrunners qui s'appellent Britt Marling et Zal Batmanglij. Et elle raconte l'histoire fictive de Prairie Johnson, une jeune femme qui réapparaît après avoir été portée disparue mystérieusement 7 ans auparavant. Mais le plus étonnant, c'est pas tant qu'elle est disparue et qu'elle soit réapparue, c'est que quand elle a disparu, elle était aveugle, et maintenant elle a retrouvé la vue.
C'est vrai, j'avais oublié que
ça commençait. Oui, c'est la prémisse, ça commence comme ça. Alors justement, c'est le genre de série, on n'a pas trop envie d'en dire plus, parce que ça gâche vraiment le plaisir de la découverte.
Il y a un truc qui vient de se passer dans nos oreilles. Ouais. Je pense pas que, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a comme une voix qui est passée de gauche à droite, mais on n'a rien touché. Mais je pense que ça va, on nous entend lisiblement.
On nous entend.
Mais bon, voilà, si ça coupe, vous savez que ça vient quoi. Donc oui, c'est une série, on n'a pas envie.
Non, on n'a pas envie de trop dire un plus, en fait. Ça, c'est vraiment la prémisse. La série commence comme ça, mais l'histoire très très vite va aller dans d'autres directions. Et je vous préviens d'avance, hein, l'histoire, elle avait été écrite de base pour remplir 5 saisons. Et malheureusement, elle a été annulée par Netflix en 2019.
Mais
seulement
non
après 2 saisons.
Mais non, moi j'ai toujours cru que... J'ai toujours cru que ça avait été écrit pour 2 ou 3 saisons, mais pas pour 5.
Absolument pas. Et d'ailleurs, les créateurs, en fait, depuis le début, ont communiqué sur le fait qu'il y avait 5 saisons. Et d'ailleurs, si tu veux, en off, on en parlera un peu plus, parce qu'en fait, chaque saison devait raconter une histoire bien précise. Et donc le récit en fait a déjà été pensé, en fait il y a beaucoup de séries, bon, ça se faisait plutôt avant dans les séries des années 2090, les épisodes étaient écrits presque au fur et à mesure des diffusions, et de plus en plus avec des séries très qualitatives qui sont sortis ces dernières années, on part plus sur des projets d'auteur, des choses qui sont écrites à l'avance. Les trois saisons, elles sont déjà écrites à l'avance, même si il y a que la première qui est signée et qui va être réalisée. Et donc là, c'est le cas. C'est un projet qui était déjà entièrement écrit et entièrement pensé par les créateurs. Et justement, on parlait des fans donc, qui ont été outrés, trahis par l'annulation de Netflix. Il faut savoir qu'après l'annulation, il y a un grand mouvement qui s'est organisé pour sauver la série. Hein. Hashtag Save the OA. Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant, c'est des phénomènes qu'on a déjà vus à chaque fois qu'il y a une série qui est annulée.
Personne n'a fait mieux d'ailleurs que les British qui ont manifesté dans les rues de Londres pour interpeller Conan Doyle sur le fait que son personnage, Sherlock Holmes, n'avait pas le droit de mourir.
Oui, tout à fait.
Donc il a dû ressusciter son personnage parce que les British ont décidé que non, Sherlock Holmes devait être en vie.
Non, pas être fini.
Donc on attend toujours que le record mondial de la fanitude soit...
Mais alors attends, parce que là, il y a du niveau. Ah. Hein, et du coup, donc, des mouvements de fans pour sauver une série, dire leur amour d'une série, essayer de faire en sorte que la décision change, ça s'est déjà vu. Par exemple, pour Sense8 aussi, il y a eu beaucoup de fans qui s'étaient mobilisés. Et d'ailleurs, Sense8 était aussi Netflix, hein, décidément, les grands méchants de l'histoire, c'est eux. mais dans le cas de DOA, donc c'est allé plus loin hein, qu'un simple hashtag sur les réseaux. En fait, les fans se sont persuadés, après l'annonce de l'annulation de la série, que c'était un coup de com-marketing de la part de Netflix pour annoncer en fait, la prochaine saison. Pareil, sans en dire plus sur la série, l'histoire et ce qui s'y déroule serait raccord avec ça, avec cette espèce de méta un peu. Et donc la ferveur générale, elle est même alimentée par un des créateurs, en l'occurrence Zal, qui poste sur les réseaux sociaux au même moment une série d'images cryptiques assorties de légendes très bizarres. Et les fans pensent à ce moment-là que ça semble faire partie d'un ARG. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça me fait penser à RPG, mais je crois que ce n'est pas la même chose.
Alors, un ARG, c'est l'acronyme en anglais de Alternate Reality Game. Et en fait, c'est comme une sorte de jeu interactif en ligne qui met à profit le monde réel. C'est un peu comme une chasse au trésor grandeur nature sous la forme d'un jeu de pistes qui se fait en ligne et qui implique une histoire et une communauté va se mobiliser pour
c'est
le
jeu. C'est comme les gens qui font des randos pour trouver les fans de courses d'orientation, ils cachent des espèces de puces GPS.
Ah oui, géoguesseurs.
Partout. Et en fait, tu peux te faire un voyage comme ça à pied dans la campagne. Mais
là, la différence avec les ARG, c'est que souvent, en fait, les gens qui jouent au début ne savent pas forcément que c'est un jeu. En fait. Après, les internautes se rendent compte que c'est un jeu, qu'il y a des indices et qu'il faut aller plus loin. Mais en fait, souvent, c'est jamais présenté comme un jeu. En fait. Ça va être présenté comme un truc réel. Et en fait, en enquêtant, les gens vont se rendre compte qu'en fait, non. C'est vraiment à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a toute une part de narration. C'est super intéressant. Les ARG, il y en a eu plein d'assez iconiques. Et
alors pourquoi tu voulais nous parler de The OA quand même, qui est une sortie, si tu nous parles d'une série qui est sortie en 2016 et pas il y a deux mois quoi.
Et parce que justement, je trouvais que toute cette ferveur autour. En fait, Netflix a carrément dû faire des démentis. Netflix a dû s'exprimer pour dire la série est vraiment annulée. Il faut arrêter. Les fans harcelés, les acteurs, Netflix, toutes les gens qui étaient impliqués dans le truc, en mode mais c'est faux, on a compris le message sous-jacent, le message caché. DOA va revenir. Et en fait, Netflix a dû prendre la parole. Les acteurs ont dû prendre plusieurs fois la parole pour dire c'est bien annulé. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un coup de com marketing ou quoi que ce soit. Il faut arrêter.
Et il faut faire le deuil.
Voilà, il faut faire le deuil. Donc, il ne s'est rien passé hein, depuis le jeu. Alors, Zal, il avait clairement dit qu'effectivement, en fait, apparemment, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des pistes à ce moment-là où il a fait le jeu pour que la série soit reprise, continue, etc. C'est tombé à l'eau. Apparemment, ce qui a été proposé aux créateurs, c'est de faire un film, comme pour Sense8, pour conclure l'histoire. Ils ont refusé, parce que pour eux, leur histoire ne pouvait pas se raconter, terminer.
C'est une narration
en...
série,
ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas raconter l'histoire comme ils l'auraient aimé, la conclure en tout cas en faisant un film. Et donc, The OA, on ne sait pas si ça reviendra un jour. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette série, sachez que les fans s'organisent régulièrement pour faire des visionnages collectifs auxquels participent les acteurs et les réalisateurs. Oh. Et après, il y a une FAQ qui est faite avec eux, où les fans peuvent poser des questions, etc. En ce moment même, il y a des séances de visionnage qui sont organisées sur Reddit, sur la communauté Reddit d'IOA.
Trop bien.
Vous allez jeter un œil et puis vous pouvez participer. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'occasion de le découvrir comme ça.
Et une dernière chose pour les gens qui ne connaissent pas IOA et qui se demandent s'ils vont aimer. Si vous avez aimé La Jeune Fille de l'eau, si vous aimez Donjons et Dragons, les jeux d'énigmes, les jeux d'enquête et un peu métaphysique, ça va vous plaire.
Ouais.
C'était quoi l'autre truc que je voulais vous dire? Oui, que ça vaut le coup.
Ah oui, je peux rajouter,
que vous allez prendre plaisir à redécouvrir l'acteur de Lucius Malfoy dans un rôle, encore une fois, de grand méchant. Donc, vraiment, oui, il mérite un Oscar, quoi.
Et moi, j'allais dire aussi que si vous voulez, alors vous, peut-être vous n'avez pas trop envie de vous lancer dans une série, vous dites qu'elle est annulée. En plus, on ne va pas se mentir, ça se termine sur un énorme cliffhanger, la saison 2, ce qui a alimenté le mécontentement des fans et le désespoir. Si vous voulez vous lancer dans un truc. Pour tester un peu l'univers de ces deux créateurs qui sont assez particuliers. Mmh. Il y a une série qui est sortie récemment, qui s'appelle A Murder at the End of the World, qui est créée par eux également, réalisée, co-écrit, et également, comme pour dire, oui, j'ai pas précisé, mais Britt Marling, elle apparaît également en tant qu'actrice titre dans la série, dans ces deux séries, dans DOA, c'est l'actrice principale, c'est Terry Johnson,
c'est
Britt Marling, la créatrice de la série.
Je savais pas que c'était l'auteur.
Ouais, tout à fait. Et pas juste, c'est les créateurs, les scénaristes, les réalisateurs et les interprètes.
Et puis, c'est pour ça qu'elle l'incarne aussi bien. Hein,
ah bah, c'est son projet, c'est son bébé, et elle est également dans A Murder at the End of the World. Voilà, une très bonne série.
Merci beaucoup, Morgane, pour tous ces conseils de visionnage. On espère que vous allez découvrir, que vous avez découvert plein de livres et de séries avec nous aujourd'hui, et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une très 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 bonne journée à tous. Au revoir.